When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Toute la semaine passée, grâce à mes consoeurs Victoire Toyon et Émilie Gasque, nous vous avons raconté l'histoire et l'organisation d'une journée tout à fait particulière, celle de vendredi dernier, le 14 juin, date à laquelle les femmes suisses étaient appelées à faire grève et à descendre dans la rue pour demander, comme elles l'avaient fait déjà massivement il y a 28 ans, en 91, une réelle égalité avec les hommes, notamment pour tout ce qui touche au travail et au salaire. Ça aurait quand même été dommage de s'arrêter en si bon chemin et de ne pas vous donner à entendre à quoi ressemblait concrètement cette journée tant attendue de mobilisation, tout en s'interrogeant au passage sur ce qui viendra après. Au hasard, chez nous, en France, est-ce qu'une grève des femmes inspirée par nos voisines serait imaginable ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Évidemment, pour d'abord revenir sur ce 14 juin 2019 en Suisse, je suis avec ma camarade Victoire Toyon. Salut Victoire.
Salut Thomas.
Vendredi, tu étais toi en Suisse pour vivre et nous faire vivre cette manifestation. C'était comment ?
C'était incroyable. Je dois bien dire que je m'attendais à ce que ce soit très fort, mais pas à ce point-là. Donc moi, j'ai commencé la journée à Genève, tout en suivant tout ce qui se passait en Suisse à partir de mon téléphone portable. Mais je peux vous raconter ce que moi, j'ai vu de mes yeux vus. Donc à Genève, j'étais d'abord le matin dans le quartier des Paquis. Donc c'est un quartier assez populaire à Genève. Et puis là, il y avait une petite centaine de femmes de toutes les générations. J'ai notamment vu une femme très âgée dans un fauteuil roulant avec une pancarte qui disait « sexualité ». Liberté de choix. Il y avait plein de femmes avec des panneaux folles de rage, très bien dessinés. Ouais. En fait, ce qui était frappant, c'est que tout était très bien fait. Elles avaient fait une chorale, elles avaient répété pendant plusieurs mois, ça s'entendait. C'était très joyeux, très festif. Et en fait, ça s'est retrouvé dans plein de villes en Suisse. Comme ça fait des mois et des mois qu'elles préparaient cette mobilisation, il y avait une grande créativité dans toutes les actions. Alors, ça a commencé à minuit à la cathédrale de Lausanne. Donc, elle a été illuminée en violet avec je sais pas très bien comment ils ont fait, mais une espèce de fumée violette qui était la couleur de la grève. Et puis, il y a eu les guettes. Donc, normalement, il y a un homme qui annonce l'heure qu'il est à partir de la plus haute tour de la cathédrale. Et il n'y avait jamais eu de femme qui l'avait fait. Donc là, c'était des femmes qui ont crié. Il a sonné l'heure de la grève des femmes. C'était très émouvant. Ensuite, dans d'autres actions en Suisse, il y a eu à Zurich un clitoris géant qui a été promené dans toute la ville. À Bâle, il y a la plus haute tour de Suisse, la Roche Tower. Et là, il y a eu le logo de la grève qui a été projeté en géant. Il y a eu aussi des courses de déambulateurs, des génial. Courses de poussettes. Et puis, il y a eu un moment très fort aussi dans la journée. C'était à 15h24, où dans tout le pays, les femmes ont crié. Parce que 15h24, ça marque l'heure à laquelle les femmes travaillent gratuitement, compte tenu des inégalités salariales. Ensuite, je suis allée à la grande manifestation à Lausanne. Ouais. Donc là, c'est une des plus grandes manifestations qui ait connu la ville. Il y avait encore plus de monde qu'en 91. Et là, je dois dire que moi, j'ai pleuré quasiment toute la manifestation parce qu'il y avait une immense diversité, en fait, dans la manif. Des hommes, des femmes, des enfants, des femmes très âgées, des très jeunes filles. J'ai aussi vu des dizaines de jeunes femmes torse nues. Et tout à fait à l'aise comme ça. Il y avait les pancartes, c'était un régal à lire parce qu'il y avait vraiment une incroyable diversité de slogans. Notamment, par exemple, nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques. Voilà, donc moi j'étais très très émue et d'ailleurs j'étais pas la seule.
J'ai ressenti, mais franchement je suis passée par tous les stades émotionnels, de la haine à voir défoncer des gars, à trop de fierté de voir toutes ces meufs qui sont là et franchement c'était ouf. trop d'allergie.
Il y a marqué quoi sur vos panneaux ?
Il y a marqué « Protégeons les zones humides » avec une vulve très bien dessinée de moi-même.
Voilà. Magnifique.
Et l'autre côté, ah parce qu'il y a deux faces, hein. Il y a marqué « Ta main sur mon cul, mon poids dans ta gueule ».
Oui, donc dans les pancartes, il y avait beaucoup de références au clitoris, à la vulve, aux règles. J'ai vu une très jeune fille avec des boucles d'oreilles, de tampons imbibés de peinture rouge, par exemple. J'ai vu des slogans comme « En avant mon cliqui ». voilà. Et ça correspond, je trouve, bien à ce que la philosophe Camille Fradeau-Métry appelle aujourd'hui le tournant génital du féminisme. C'est-à-dire que toutes ces questions sont vraiment venues sur le devant de la scène et ça l'était moins dans les précédentes décennies. Beaucoup de références aux sorcières aussi. C'est en Suisse qu'a été brûlée la dernière sorcière en Europe. Et donc j'ai vu des pancartes comme « Nous sommes les arrière-petites-filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Ou sans Hermione, Harry serait mort. Donc aussi référence à la sorcellerie parce que c'est voilà par rapport
c'est
à Harry Potter. Trembler, les sorcières sont revenues. Voilà, il y avait vraiment plein de slogans très drôles, des chansons, etc. Et puis j'ai demandé à des militantes historiques qui ont participé à la grande grève de 91 en quoi celle-ci était différente. Et elles m'ont toutes dit qu'il y avait beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'enfants, plus de messieurs, plus de monde. Il y avait beaucoup plus de diversité qu'avant. Il n'y avait pas que des femmes blanches. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes voilées, des femmes migrantes, etc. C'était vraiment très, très divers comme mobilisation.
Et du côté des femmes qui ne pouvaient pas faire grève concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça, c'était un grand problème dans la grève en Suisse. Donc, comme on l'a expliqué dans le documentaire, les femmes en Suisse, enfin les gens en Suisse n'ont pas le droit en fait de faire grève pour des motifs politiques. C'est contraire à ce qu'ils appellent là-bas la paix du travail. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de secteurs où les femmes avaient interdiction de faire grève. Donc là, elles ont fait des actions symboliques. Parfois, pour elles, c'était juste porter un pins ou un ruban. Ouais. Ça voulait déjà dire beaucoup. Il y a des vendeuses qui ne pouvaient pas faire grève, qui sont sorties pour quelques minutes juste devant leur magasin, en sifflant avec des drapeaux et tout ça. Donc il y avait quand même des actions symboliques, même pour celles qui ne pouvaient pas faire grève.
On a parlé, tu l'as mentionné, des chansons. J'imagine qu'elles étaient très présentes. On les entendait beaucoup dans le documentaire, dans la préparation.
Ouais.
J'imagine que là, elles ont résonné un peu partout.
Ah oui, ça aussi, c'était incroyable. Moi, ça m'a émerveillée. Parce qu'en fait, il y a eu plein de chansons qui ont été réécrites avec des paroles très soignée, très émouvante. Bon, on a entendu l'hymne des femmes, hein, qui est l'hymne du MLF, qui a été écrit dans les années 70. Mais là, il y avait aussi l'hymne de la grève, c'était le Oli Oli Ola. On a beaucoup chanté, nous, à la rédaction de Binge Audio, préparant le documentaire. C'était très entraînant, donc ça, on l'a entendu. Et puis aussi la chanson « Balance ton quoi » d'Angèle, que j'ai beaucoup entendue. Voilà, et des dizaines et des dizaines d'autres chansons.
Et dans le reste du pays, est-ce que la grève, elle était soutenue ?
En fait, c'est assez ambivalent. Y a des médias, mais qui sont plutôt marqués à gauche, qui ont soutenu la grève. Par exemple, le quotidien Le Temps, ils ont décidé d'imprimer le journal en mettant des espaces vierges, là où les femmes auraient dû écrire normalement. Sur leur édition en ligne aussi, ils ont fait ça. La Tribune de Genève, elle a un bandeau bleu normalement sur son logo. Et puis là, elle l'a remplacé par un bandeau violet. Donc bon, voilà, c'était quand même suivi par les médias. Après, tous les médias n'étaient pas d'accord. Je pense que notamment quand je me suis réveillée, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres un magazine gratuit distribué dans toutes les villes, au moins à Genève et à Lausanne, qui avait titré en une « Féminisme radical, le mâle dominant
». Voilà. Yes.
Ouais. Quand on ouvrait le journal, c'était l'hystérie, les hommes sont exclus du mouvement,
voilà.
Si les femmes n'ont pas le même salaire, c'est juste parce qu'elles n'osent pas demander. Enfin, voilà,
des grands classiques.
Voilà, des très grands classiques. Et puis politiquement, il n'y a pas eu tellement de déclarations officielles, mais le Conseil national en Suisse a interrompu symboliquement les débats pendant 15 minutes. Il y avait pas mal de parlementaires qui avaient un foulard violet.
Oui.
Bon, voilà, c'était quand même plutôt... Mais il faut quand même rappeler que les syndicats des patrons étaient contre la grève et on dit que c'était illicite.
C'est quoi le bilan de cette journée ? Parce qu'en 91, on l'a beaucoup répété ce chiffre, c'était 500 000 femmes dans la rue. On en est où de cette journée du 14 juin ?
Mais en fait, il n'y a pas encore de chiffre global de la grève. Mais la police a reporté qu'il y avait eu 40 000 personnes à Lausanne, 12 000 à Genève, 70 000 à Zurich. Donc c'est des manifestations très très importantes. On ne sait pas encore combien ça fait au total, mais c'est vrai qu'il y avait des villes où ils ne s'attendaient pas à cette affluence-là. La police a dû créer des parcours secondaires tellement il y avait de manifestantes. Enfin, voilà, apparemment, ça a quand même dépassé les espérances des organisatrices.
Et pour la suite, qu'est-ce qui est prévu ensuite ?
Alors, bon, la RTS a analysé les listes électorales en Suisse. Donc, il y aurait un impact déjà sur le nombre de femmes qui sont candidates pour leurs prochaines élections fédérales en octobre 2019. Après, le gouvernement a fait savoir qu'il restait hostile à un congé paternité rémunéré. Ça, c'était une des revendications de la grève. Ouais. Et puis, tout de suite après la grève, l'Union syndicale suisse, qui est à l'origine du mouvement, a bien remis en avant les revendications, notamment plus d'investissements pour les crèches, des salaires égaux. Et pour arriver à ces salaires égaux, il faut mettre en place des contrôles, des procédures concrètes et précises. Il demande aussi la revalorisation du salaire des métiers majoritairement féminins, etc. Mais je ne sais pas très bien, c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer après, mais ce que je me dis forcément, c'est que le fait d'avoir participé à ce mouvement et de l'avoir organisé pour toutes celles qui en étaient membres, eh ben, ça crée une conscience collective, ça crée des liens, ça crée des nouveaux réseaux, et ça, ça va forcément avoir des effets sur le réel, quoi, à la fois dans la vie personnelle, intime de ces femmes, mais aussi à un niveau collectif. Et puis ça renforce évidemment la détermination à mener ces combats et à les gagner.
Ça s'arrête pas aujourd'hui, là c'est que le début et maintenant on va vraiment continuer et persévérer et voir que tous nos manifestes et tout ce qu'on a écrit eh ben, ce soit vraiment appliqué et qu'il y ait vraiment des choses qui changent. On va pas attendre encore 28 ans avant la prochaine grève et redemander les mêmes choses qu'il y a 28 ans.
Après le 14 juin, on ne lâche rien. Après le 14 juin, on ne lâche rien. Après le 14 juin.
Cette grève, elle nous a donné envie de nous interroger sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la France et sur la possibilité de voir émerger le même type de mobilisation.
On a donc appelé l'historienne Zoé Kergomar. Elle est chercheuse à l'Institut historique allemand à Paris et on lui a demandé ce qui fait que, selon elle, les féministes suisses ont réussi à s'unir pour se mobiliser.
Alors, il y a cette unité pour ces mobilisations-là. Ça s'est déjà vu donc lors de la première grève des femmes en 1991, parce que justement, c'était un format qui permettait de rassembler beaucoup de revendications différentes, et puis aussi, par l'idée de la grève, de mettre en avant le travail des femmes sous toutes ses formes, qui est souvent caché. Et donc ça, ça avait une portée très forte, qu'on a complètement retrouvée vendredi, et c'est ce qui permet à énormément de mouvements de se retrouver autour de ça. Donc c'est parti, c'est vrai, des syndicats, et notamment des sections féminines des syndicats, vu qu'il y en a en Suisse et qu'elles sont très importantes. Mais ensuite, ça a agrégé tout un tas de mouvements, des mouvements féministes plus historiques, des nouvelles associations, et puis il y a aussi des tas de comités ad hoc qui ont été créés juste pour ça. Donc ça a vraiment permis cette unité, mais ça ne veut pas non plus dire que tous les mouvements de femmes en Suisse et les mouvements féministes, il faudrait faire une distinction entre les deux, sont toujours d'accord, simplement que là, en l'occurrence, il y a pu avoir une vraie convergence.
Mais qu'est-ce qui fait que le mouvement féministe est en fait assez fort et assez uni, au-delà des générations?
Oui, alors ça c'est intéressant. En fait, c'est un petit peu l'unité face à l'adversité. Parce que c'est quand même vrai que les mouvements féministes et puis souvent aussi les mouvements de gauche en Suisse ne sont pas très forts aussi dans le système politique. Et d'un certain côté, ça leur permet aussi d'avoir cette force par contre à l'intérieur et cette envie de quand même essayer de faire bouger les lignes. Et ça, on le retrouve depuis longtemps. Je pense que du coup, ce qui joue un rôle dans les mémoires collectives, c'est que bah, du fait de cette faiblesse, les femmes en Suisse n'ont eu le droit de vote au niveau fédéral qu'à partir de 1971. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on peut souvenir quand on est une femme d'un certain âge, mais aussi les femmes plus jeunes. Je me souviens de mes étudiantes en histoire, donc en début de vingtaine. Souvent, elles le savaient déjà, que c'était très tard, mais par exemple, étudier ce moment-là de l'histoire suisse, ça a souvent un impact très fort. Ça peut aussi conscientiser. Donc je pense que ça, aussi, ces mobilisations-là, elles permettent de transmettre le relais entre différentes générations de féministes. Et c'est quelque chose qu'en fait, on n'a pas dans la plupart des pays, parce qu'on n'a plus de suffragettes. En Suisse, vous pouvez rencontrer des suffragettes, et il y en a encore qui ont manifesté vendredi.
Il y a une dynamique importante dans ce mouvement en Suisse, c'est la participation, on va dire, des femmes immigrées, ce qui est moins courant, en tout cas qui est moins dans la tradition de notre côté à nous en France.
Bah, ça existe, mais du coup séparément peut-être des mobilisations traditionnelles, parce qu'il y a peut-être ce problème de division. Alors c'est vrai qu'en Suisse, il y a une prise de conscience peut-être plus tôt qu'il fallait absolument lier les deux. C'est aussi qu'il y a une part très importante de la population qui n'a pas le droit de vote, donc c'est autour d'un quart. Et il y a eu des premières mobilisations des femmes migrantes, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, simplement qu'on les a oubliées, déjà dans les années 70. Et puis petit à petit, les syndicats eux-mêmes en fait se sont rendus compte qu'il fallait absolument intégrer ça dans leur travail, aussi parce que justement les syndicats ont une part très importante de leur base en fait qui n'a pas le droit de vote et qui doit donc aussi avoir d'autres moyens d'action, notamment par exemple la grève dans ce cas-là. Donc il y a vraiment cette tradition là, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition. On voit aussi qu'il y a eu un effort, alors c'est pas parfait, mais il y a eu un effort pour à chaque fois mettre en avant aussi la condition des femmes migrantes et puis les conditions de travail qu'elles ont en général, qui sont souvent dans des métiers peu qualifiés, peu payés, précaires, avec beaucoup de temps partiel, dans les métiers qu'on appelle du soin, mais aussi par exemple dans l'entretien, etc.
Est-ce que vous pensez que les cultures politiques différentes jouent un rôle aussi dans le fait que ça a été possible en Suisse et qu'en France, on a plus de mal à l'imaginer? Je pense notamment à cette culture du consensus, du débat démocratique qui est peut-être mieux ancrée en Suisse.
Alors, je trouve que c'est une question toujours très difficile parce qu'il faut éviter aussi d'en faire quelque chose qui serait complètement déterminé, qui ferait que certains types de mobilisation seraient possibles à un endroit et d'autres impossibles à un autre. On m'a beaucoup posé la question récemment sur la démocratie directe. C'est pareil, c'est pas parce que c'est très propre à la Suisse que ça peut pas être expérimenté ailleurs. Et là, ça me semble être un peu la même chose. On peut dire qu'il y a des conditions favorables en Suisse aujourd'hui, du même style qu'en fait, autrefois, il y avait des conditions plutôt défavorables aux mobilisations féministes en Suisse, qui ont justement ralenti l'introduction du suffrage féminin. Donc ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a cette conscience très forte et il y a aussi ce sentiment qu'il faut s'unir. Là où ça va en fait plutôt à l'inverse du consensus, c'est aussi que j'ai l'impression que les féministes et plus généralement la gauche est très unie contre un ennemi commun qui sont les droites économiques, mais aussi surtout le parti de droite radicale qui s'appelle l'Union démocratique du centre, qui en plus ces dernières années est un peu en perte de vitesse. Donc il y a le sentiment qu'il y a un front commun, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut lutter contre ce parti-là et ses idées, et aussi que c'est très facile d'avoir cette, d'un certain côté c'est assez rassembleur d'avoir cet ennemi-là parce qu'on est ennemi avec ce parti sur beaucoup de plans, sur la politique migratoire justement, du coup aussi sur les questions de féminisme, et puis aussi aujourd'hui sur l'environnement. Donc ça fait vraiment une coalition assez forte. Et ça, c'est pas vraiment dans le sens d'un consensus. Au contraire, la politique suisse est quand même beaucoup polarisée ces 30 dernières années, mais ça a aussi permis à la gauche, d'un certain côté, de se rassembler et d'avoir une ligne plus claire sur les sujets qui lui sont propres.
Histoire d'aller encore plus loin dans notre réflexion sur une potentielle grève féministe en France, nous avons invité la philosophe Fabienne Brugère à venir en discuter avec nous.
Fabienne Brugère est professeure à l'Université Paris 8. Elle a récemment signé une tribune dans Le Monde appelant à plus de solidarité dans les luttes féministes et elle vient de publier le livre « On ne naît pas femme, on le devient » aux éditions Stock. On a commencé par lui demander ce qui, selon elle, n'a pas permis à un mouvement similaire à celui du 14 juin d'émerger en France pour le moment.
Je crois qu'en France, pour l'instant, les mouvements de femmes sont beaucoup plus pluriels, ce qui est d'un certain côté la preuve d'une grande vitalité. Par exemple, il y a eu la marche du mois de novembre 2018.
Le 24 novembre.
Voilà, le 24 novembre, contre les violences faites aux femmes, qui a quand même réuni 30 000 personnes à Paris. Il y a énormément de mouvances féministes en France, énormément d'associations. On peut dire que le mouvement MeToo a quand même eu une répercussion extrêmement importante. Mais en même temps, il me semble que pour l'instant, le problème français, c'est qu'on a du mal à faire l'unité. On a du mal à faire l'unité à la fois entre toutes les femmes, parce qu'il y a quand même des situations de femmes extrêmement diverses, et puis aussi entre les femmes et les hommes féministes. Et donc la Suisse est en ce sens un modèle pour ce vendredi dernier, au sens quand même d'une unité, d'une sorte de solidarité autour de la question des femmes, et puis d'un esprit festif que je trouve aussi extrêmement intéressant.
Et qui n'est pas tellement présent en France, vous trouvez, dans les mouvements féministes ?
Ben, je trouve qu'en tout cas, il a du mal à percer, oui, cet esprit festif, sans doute parce que déjà du point de vue de la violence faite aux femmes, la situation française est quand même particulièrement catastrophique. Donc peut-être que ça incite pas à la fête quand on sait que depuis le début 2019, on a à peu près un féminicide tous les deux jours. Hein. C'est quand même beaucoup plus, en tout cas, qu'en Suisse. Je je trouve qu'en France, oui, il y a du mal à créer une solidarité et une unité entre les femmes et donc aussi cet esprit festif autour des questions féministes.
Et qu'est-ce qui divise parce qu'on parlait d'union, du coup, de sororité, des mots d'ordre qui arrivent à réunir le mouvement féministe en Suisse. Qu'est-ce qui fait que le mouvement féministe en France, il semble plus divisé qu'en Suisse?
Je crois que on a une mauvaise conception de l'unité en France. C'est-à-dire que soit on est républicain dans le sens de l'histoire de la République et on pense à cette notion de République une et indivisible et donc on pose l'unité avant toute chose. Et donc à ce moment-là, finalement, nous sommes tous des individus et les femmes deviendront des individus, on pourrait dire, comme les autres. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a cette question de cette unité qui est déjà là et qui, à mon avis, empêche les luttes féministes de pouvoir se constituer en union. Moi, là-dessus, j'ai un point de vue assez tranché qui reprend les travaux de la philosophe Judith Butler sur l'idée d'une coalition des différences. Il faudrait qu'on arrive à mettre ensemble les différents féminismes sur un certain nombre de points. Et en particulier, il y a un point pour moi qui concerne toutes les femmes et tous les féministes. C'est la question de la pauvreté des femmes dans le monde. 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Et donc la question aussi des inégalités de pouvoir et de richesse entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les femmes. Et je crois que ça pourrait dessiner justement une coalition des différences. La lutte contre la pauvreté, ça va très loin. C'est aussi une lutte contre les inégalités salariales. Et je pense qu'il faudrait travailler à cela. Cependant, l'idée d'une coalition des différences, c'est pas tellement dans l'esprit français, même si je pense que forcément ça va venir. Et ce qui s'est joué en Suisse, c'est bien précisément une coalition des différences entre des féministes de différentes tendances. Elles ont réussi à se réunir autour de ce mot d'ordre, d'une journée de grève des femmes.
J'essaie d'imaginer cette coalition des différences en France, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quand même deux sujets qui divisent beaucoup les mouvements féministes français et qui c'est pas le cas en Suisse, c'est la question du travail du sexe ou de la prostitution et puis la question du voile. Et ça, en France, c'est quand même deux sujets qui ont déjà provoqué des scissions et des combats assez virulents.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur la question du voile, on bute à nouveau sur la conception de la République et sur certaines interprétations de la laïcité. Et donc forcément, c'est un sujet extrêmement clivant. C'est un sujet extrêmement clivant et qui restera clivant, je pense, pour un bon nombre d'années. C'est pour ça que mon idée, si vous voulez, sur la coalition des différences, ce n'est pas de dire on va pouvoir s'entendre sur tout. Parce qu'il est évident que sur la question du voile, entre certaines tendances féministes, il n'y aura jamais d'accord. Mais en revanche, on peut s'entendre sur d'autres questions. Et il me semble que sur la question des inégalités de pouvoir et de recherche, sur la question de la pauvreté, on est quand même beaucoup, justement, à pouvoir s'entendre.
Mais je crois que c'est ce qu'avait un peu tenté la marche du 24 novembre contre les violences sexuelles, mais là aussi il y a eu deux scissions dans le mouvement. Il y a eu un certain nombre, une cinquantaine d'associations qui ont décidé de ne pas marcher dans Nous Toutes et de faire un groupe qui s'appelait Nous Aussi, parce qu'elles disaient qu'elles ne se sentaient pas du tout reconnues et acceptées. Je pense à des associations comme l'ALAB ou à des associations de travailleuses du sexe comme le STRAS, qui disaient qu'elles ne se sentaient pas reconnues dans le mouvement Nous Toutes. Et à la fois, il y a une deuxième scission de femmes qui disaient qu'elles ne supportaient pas de défiler à côté d'un mouvement qui revendiquerait la pornographie et la prostitution comme étant émancipateur. Donc ça, moi, ça me semble être en France vraiment la question du travail du sexe, du rapport à la pornographie et à la prostitution, quelque chose de c'est vraiment un sujet où les différents mouvements sont irréconciliables.
Alors, est-ce un sujet où les différents mouvements sont irréconciliables? C'est vrai qu'on en avait eu, une preuve en particulier il y a quelques années, au moment où Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, avait justement réfléchi sur l'abolition de la prostitution. On avait bien vu qu'à ce moment-là, c'était un sujet réellement clivant à l'intérieur même, effectivement, des mouvements féministes. Après, ce que je dirais là-dessus, c'est deux choses. D'une part, mais ça vaut aussi pour d'autres questions, comme par exemple celle des migrations et de l'accueil des migrants, sujet aussi extrêmement clivant. Je crois qu'il faudrait quand même que des tendances opposés arrivent malgré tout à un moment à construire du débat, à pouvoir justement discuter ensemble, à pouvoir en tout cas essayer de construire un fil peut-être sur certains points. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a effectivement quelque chose que le mouvement féministe souvent oublié en France, et c'est d'ailleurs un point que j'ai travaillé dans le livre que je viens de sortir chez Stock, « On ne naît pas femme, on le devient », c'est la question de la liberté. Et il me semble que la question de la liberté des femmes dans l'usage de leur corps, mais aussi dans l'usage de leur esprit, est une question particulièrement essentielle sur laquelle tous les féminismes aujourd'hui devraient se pencher. Cette question de la liberté, on doit la réintégrer d'autant plus qu'elle est aujourd'hui essentielle sur un autre point qui devient mondial, à savoir l'interdiction de l'avortement fait un grand retour mondial, c'est un grand retour mondial du patriarcat, je le dirais de cette manière-là, et qui précisément nie toute liberté corporelle des femmes. Le corps des femmes doit être sous le contrôle des hommes, c'est bien ce que nous disent ceux qui prônent l'interdiction de l'avortement. Donc j'aurais vraiment un terme à défendre dans les discussions que l'on peut tenter d'avoir, c'est malgré tout le terme de liberté.
Si on imagine la potentialité de dupliquer l'expérience suisse qu'on a suivie, nous, de notre côté, grâce à Victoire, quelle forme ça pourrait prendre en France ? Est-ce qu'une grève, ça fonctionnerait aussi bien en France qu'en Suisse, qui n'a pas du tout la même culture, on va dire, vis-à-vis de la grève que notre pays à nous ?
Alors, c'est vrai que la notion de grève n'est pas la même en Suisse et en Suisse en France. C'est vrai qu'en France, on pourrait dire d'un certain côté que nous avons l'habitude des grèves et que donc peut-être d'une certaine manière, une grève est quelque chose de moins spectaculaire que dans un pays comme la Suisse. Mais je crois malgré tout qu'une grève des femmes serait vraiment spectaculaire en France. Enfin, je pense qu'il y aurait là quelque chose de réellement nouveau.
Si on imagine qu'il y a cette coalition des différences, je me demande comment concrètement est-ce que ça se met en place. Est-ce qu'il faut organiser des assises, des assemblées? Comment est-ce qu'on apprend à se parler, à trouver malgré tout des points communs, malgré des clivages qui sont profonds et qui sont anciens?
Alors justement, j'aime beaucoup la notion d'assemblée. Il y a eu dernièrement, malheureusement c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, de Michael Hart et de Tony Negri, Assemblée, qui est précisément la tentative de définir ce que seraient des assemblées. J'aime bien le terme d'assemblée parce qu'il veut dire précisément qu'on se rassemble, qu'on s'organise. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faudra aller. Et ça, évidemment, ça suppose au sens large, des volontés politiques de rassemblement qui ne partiront jamais du pouvoir lui-même, mais qui partiront justement des individus, des collectifs et de leur volonté de s'ouvrir, de rencontrer d'autres collectifs, de construire peut-être un manifeste du féminisme, un manifeste du féminisme ordinaire et puis d'agir à partir de là.
Évidemment, on continuera de garder un œil sur les suites de cette journée du 14 juin en Suisse et sur les avancées qui en découleront peut-être.
Et on suivra aussi de près, évidemment, l'inspiration que suscitera cette grève, par exemple, en France.
Merci à Zoé Cargomar et Fabienne Brugère pour leurs réponses. Merci à toi, Victoire, de nous avoir fait vivre de l'intérieur cette mobilisation et d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, je vous le rappelle, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Théo Boulanger. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, Alors dans Le Naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.